Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Identification et gouvernance politique en RDC. Droit et citoyenneté s'intéresse aujourd'hui à cette thématique d'actualité à travers un débat républicain à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. En effet, la tenue des élections en 2023 est une question de volonté politique et non un problème technique et financier. Une feuille de route a déjà été élaborée et se trouve sur la table du Premier ministre. Il en découle que les préparatifs des opérations mutualisées préélectorales devront se terminer le 15 mai 2023. Elle concerne l'identification des populations, le recensement scientifique et l'enrôlement des électeurs. Quelle différence y a-t-il entre ces trois concepts? Est-il possible de procéder à ces trois opérations à la fois sans que cela ne puisse impacter la tenue des élections en 2023? Avec quel budget peut-on tenir ces opérations? Le magazine de promotion de vos droits et devoirs vous entretient autour de ces notions. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous.
Les recensements, c'est un terme vraiment technique, mais pour être simple, je peux dire que les recensements, c'est le fait pour un gouvernement de connaître le nombre d'habitants sur le pays ou qui habitent son pays. Alors, les recensements font partie des éléments de base pour gérer une localité, un village, une nation, même une ville. C'est important de faire les recensements et de connaître le nombre de la population. Mais dire que avant d'aller aux élections, il faut d'abord passer par les recensements, là je pense que ça ne marche pas. Les deux opérations peuvent se faire de manière concomitante. On fait les recensements et puis on prépare les élections.
Le recensement est une opération administrative qui consiste à faire les dénombrements de la population d'un état, d'une ville ou d'une localité, etc. Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent dans un pays, d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population, âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement, etc.
Après ces différents points de vue de la population sur les notions de l'identification, le professeur Elie Lerondomba Kabeya, président au Conseil d'État, explique ici le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté.
En effet, lorsqu'on aborde les questions relatives à l'identification de la population, à l'état civil et au recensement, comme lorsqu'on aborde celles relatives à la nationalité et à la citoyenneté, une confusion s'installe tout de suite dans le cerveau des communs des mortels, surtout quand on n'est pas très averti dans toutes ces matières. Le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté, en fait, comme chacun d'entre nous peut se l'imaginer, il me paraît indispensable, sinon utile, dans le but de fixer des idées, d'expliquer dans une première rubrique les concepts de recensement et les notions qui lui sont voisines, telles identification de la population et état civil, avant de venir dans une deuxième rubrique parler de la citoyenneté et de la notion qui lui est très voisine aussi, la nationalité. En ce qui concerne le recensement, sans rester dans plusieurs détails, on peut retenir de manière sommaire que du latin, recensere signifie passer en revue. Le recensement est une opération statistique de dénombrement d'une population. Et aussi ancien que le temps, le recensement démographique existe depuis l'Antiquité et la Bible les mentionne à plusieurs reprises. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au XXe siècle, au XXIe siècle déjà, le recensement était devenu l'outil d'aide à la prévision économique et recueille, outre le nombre d'habitants, d'autres caractéristiques comme l'âge, la profession, les conditions de logement, de déplacement, domicile-travail ou domicile-études et les modes de transport, les noms ainsi que d'autres données personnelles comme la religion, la langue, l'identification des personnes interrogées à une race apparaissent aujourd'hui comme évidents, mais à l'époque, ces éléments n'étaient pas. En Afrique, comme chez nous en RDC, les recensements étaient confondus à l'identification de la population et chaque chef de lignée connaissait qui était membre de sa lignée. Vous en doutez bien, lorsqu'on parle dénombrement, comptage, recensement, on pense tout de suite aussi à des notions comme identification de la population comme état civil. Mais le terme identification signifie, quant à lui couramment, l'action d'identifier ou de s'identifier, ainsi que les résultats de cette action. Identifier, se reconnaître, trouver l'identité de. L'identité d'une personne vise l'ensemble des éléments permettant d'établir sans confusion possible qu'un individu est bien celui qu'il dit être ou qu'on présume qu'il est. En droit civil, l'identité s'analyse comme l'ensemble des composantes grâce auxquelles il est établi qu'une personne est bien celle qui se dit ou qu'on présume telle. Le nom, les prénoms, la nationalité, la filiation, domicile, et j'en passe. En République démocratique du Congo, plus de 12 formes d'identification ont été utilisées depuis la période coloniale. Il s'agit notamment des registres de l'état civil, des laissez-passer, permis de retour, la carte d'identité, les passeports, l'extrait des casiers judiciaires, la démographie, les empreintes digitales, l'immatriculation et l'inscription au bureau de la population, les contrôles des arrivées et départs, les certificats d'identité, l'autorisation de séjour et les livrets des familles, ainsi de suite. Certaines de ces techniques, comme la carte d'identité, les registres de l'état civil, l'extrait des casiers judiciaires, les passeports et les empreintes digitales, ont été reconduites lors de l'accession de notre pays à l'indépendance.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Identification et gouvernance politique en RDC, la problématique de la citoyenneté. Le professeur Elie Léon Ndomba Kabeya, président au Conseil d'État.
Lorsque on parle de nationalité, il y a un entendement juridique et un entendement sociologique. Et lorsqu'on parle de nationalité, on voit nation et alité. C'est un lien qui rattache un individu à une nation, à un État. Et c'est l'État qui est chargé de déterminer qui est son ressortissant, qui ne l'est pas. Et donc, pour être attaché à une nation, on s'est dit, on se confond aux intérêts de cette nation, de cet État, et on défend cet État dans toutes ses implications. Et donc, la nationalité, si vous voulez bien, tous les conflits qu'il y a eu et la fracture sociale qu'il y a eu dans notre pays laissent la question fondamentale à la base, c'est la nationalité. Chez nous, il y a la stagnation du temps juridique. Vous voyez bien que les lois changent difficilement. Le code de la famille, depuis 1997, on l'a changé en 2007 et il ne changera pas bientôt. Mais la nationalité est un domaine dans lequel il y a 10 textes légaux et réglementaires depuis l'indépendance jusqu'en 2004 où il y a la loi en vigueur. Et cette loi, c'était un compromis politique à l'époque de la transition. Selon la constitution de la transition, il y avait des discussions à San City où il fallait éviter les guerres à l'Est. Et c'est ainsi qu'il a été décidé que toutes les populations dont les parents ont habité le Congo à l'indépendance soient considérées comme congolais. Et donc, ce compromis-là fait que dans notre pays, il y a des problèmes. Il y a des camps, c'est le Bakongo, ils parlent du Congo, les Baluba, ils parlent du Kirumba, les Batetele, ils parlent du Kitetele. Les tribus s'identifient aux langues, aux dialectes qu'ils parlent. Il y a les Banyamulenge. Est-ce qu'ils parlent Kinyamulenge? C'est un problème qui se pose, mais la loi a dit que même s'il n'y a pas Kinyamulenge, les Banyamulenge, ce sont des Congolais. D'où l'ex, c'est l'ex, et on considère la loi et l'État considère que ce sont des Congolais. Mais la citoyenneté elle-même, elle est politique, liée à l'exercice des droits et au respect des obligations. Un citoyen, ce n'est pas nécessairement un national. Nous avons les enfants qui ont la nationalité congolaise, qui sont nés au Congo, mais qui, eux, ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas payer l'impôt. Ce sont des nationaux, mais parce qu'ils ne sont pas, ils n'exercent pas leur droit de citoyenneté, on ne peut pas confondre cette citoyenneté qui donne la possibilité à l'exercice de droits et au respect des obligations à la nationalité. Également, les adultes, quelqu'un peut être un national, mais condamné pénalement, la condamnation pénale peut lui interdire d'exercer certains droits et vous avez les cas de ceux qui sont condamnés qui ne peuvent pas être éligibles alors qu'ils sont citoyens. Donc, la citoyenneté, alors qu'ils sont nationaux. La nationalité n'est pas à confondre avec la nationalité. La nationalité, c'est le fait d'appartenir à la nation, d'être reconnu par l'État comme appartenant à cet État. Mais la citoyenneté, c'est le fait qu'un citoyen est apte à exercer certains droits, surtout politiques, et à répondre à certaines obligations.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
Nous sommes toujours ensemble sur la fréquence de la paix. Nous vous parlons de l'identification et de la gouvernance politique en RDC. Une démission de l'Office national d'identification, ONIP, est justement d'identifier la population, selon son directeur général Richard Ilunga Ntumba.
L'ONIP, l'Office national d'identification de la population, a été créé par décret du Premier ministre Adolphe Mouzito en 2011. Les premiers mandataires de l'ONIP ont été nommés en décembre 2014. Et nous avons eu l'honneur et le privilège d'être nommés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, depuis le mois de juin 2020. Donc, un peu plus d'une année maintenant. L'ONIP a été créé avec cinq missions précises, dont trois essentielles. La première mission de l'ONIP est l'identification systématique et effective de la population. La deuxième mission de l'ONIP est la constitution et l'entretien du fichier général de la population. Et la troisième mission, c'est d'octroyer la carte d'identité à la population. J'aimerais dire qu'il n'est pas normal qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, à ce jour, personne ne connaît le nombre d'habitants de ce pays. Personne. Et pour vous donner une idée, la Banque mondiale parle de 89 millions. L'Institut national de statistique de la République démocratique du Congo a sorti son annuaire 2020, l'Institut parle de 98 400 000, si j'ai bonne mémoire. Et il y a une structure qui a été créée, qui est liée au Premier ministre de la République, qui s'appelle CAID, qui estime la population congolaise à près de 132 millions hors ville de Kinshasa. Donc, si on ajoute la ville de Kinshasa, on tourne autour de près de 150 millions d'habitants. Ce n'est pas normal, parce que quand on regarde rien que ce gap-là, entre 98 millions et 150 millions, ça fait pratiquement le tiers de la population. Et je me demande, je suis en face de la crème intellectuelle de la nation, je me demande tous les calculs que l'on fait, même quand l'on calcule le PIB de la population, le PIB par habitant, c'est quel chiffre que l'on prend? Le chiffre de la Banque mondiale, vous savez comment la Banque mondiale calcule? Chaque année, ils rajoutent 3,3% de la population. Donc l'année prochaine, comme ils estiment à 89 millions, on sera à peu près 91-92 millions pour la Banque mondiale. Pas de recensement. Et quel genre de recensement l'ONIP doit faire? Parce que vous avez en face de vous le président de la CENI qui va faire le recensement électoral. Au niveau de l'Institut national de statistique, on fait le recensement scientifique. Et souvent dans les interventions, même des intellectuels congolais, il y a une très grande confusion entre le recensement scientifique qui sera fait par l'Institut national de statistique à travers sa structure du bureau central du recensement et le recensement administratif qui sera fait par l'Office national d'identification de la population. Des définitions telles que reprises et données par les structures elles-mêmes. Pour la CENI, le recensement électoral, c'est-à-dire le recensement des électeurs, c'est l'ensemble des opérations de collecte, de transcription et de fichage des données personnelles d'identité permettant d'inscrire sur les listes électorales les personnes remplissant les conditions requises pour être électeur. Je cite pour vous montrer la différence. L'enrôlement des électeurs et l'inscription des éléments personnels d'identification des personnes en âge de voter sur la liste électorale. Le recensement scientifique, que l'on qualifie également de recensement technique ou plus simplement de recensement statistique, est l'ensemble des opérations qui consistent à recueillir, analyser et publier des données démographiques, économiques, sociales et culturelles, se rapportant à une date donnée, à un espace précis. Et le recensement de l'ONIP, c'est ce que nous appelons le recensement administratif. C'est l'ensemble des opérations d'identification et d'enregistrement des données personnelles, les données biographiques et les données biométriques qui découlent de ces données afin d'authentifier l'identité d'un individu lors de la constitution et de l'entretien du fichier général de la population, ainsi que pour la délivrance de la carte nationale d'identité ou de tout autre document sécurisé lié à ces données. Ces opérations de l'ONIP sont des opérations administratives de routine. Quand vous voyez venir vers vous un chef de quartier, il y a quelques jours, les chefs de rue de Lemba ont procédé aussi au recensement. C'est ce type de recensement avec entre 10 et 15 questions maximum qui sont faites par l'ONIP. Contrairement au recensement scientifique, qui est un recensement qui peut avoir même 70 questions. On va vous demander, vous avez une maison, ça a combien de chambres? Avez-vous l'électricité? Avez-vous l'eau? Toutes ces questions-là seront posées, c'est surtout pour les agrégats économiques que ce recensement-là est effectué.
Du budget et de la durée de ces opérations mutualisées.
Vous savez, le Premier ministre a démontré sa volonté de vouloir aller de l'avant en organisant une commission afin de voir comment faire pour aller vite, avoir une feuille de route. Cette feuille de route est sur la table du gouvernement. Et c'est au niveau du Conseil des ministres que cela doit être traité pour savoir avec exactitude quand est-ce qu'on va commencer. Donc vous comprendrez que la réponse que je vous dis, que c'est sur la table du gouvernement parce que ça dépend et des moyens et des stratégies, mais la feuille de route de la CENI, de l'ONIP et de l'INES est sur la table du gouvernement. En ce qui concerne la durée des opérations, notre feuille de route a été proposée et elle doit être discutée au niveau du gouvernement et à partir de là, elle sera publiée. Ce n'est pas une feuille de route qui restera en dessous de la table. Tout le monde saura qu'on va commencer à quel jour et ça se terminera quel jour. Mais je peux vous assurer que pour la proposition qui a été faite, ça se terminera dans les temps. Vous voulez une date ? On a proposé que ça se termine au plus tard en mai 2023. Beaucoup ne savent plus que c'est, j'allais dire, à cause ou grâce, selon le camp qu'on s'institue, des étudiants qu'en 2015, le recensement n'a pas commencé et qu'il y a eu de morts dans ce pays. Donc, pendant cette période-là, on n'aurait pu rien faire, alors qu'ils étaient nommés en 2014. Non, non. Alors, je rappelle simplement à ceux qui l'ont oublié que, au niveau du Sénat, on avait convoqué le ministre Beauchamp sur le dossier du recensement. Et ici, au niveau du campus, ça tirait. Et le président Kengo Wadondo avait décidé qu'on ne va plus lier le recensement aux élections. Et l'argent qui était prévu est allé à l'enrôlement. Le montant pour cette activité, nous avons mutualisé nos énergies, nous avons mutualisé les opérations, mais pour faire l'enrôlement des électeurs, l'identification et le recensement et la création du fichier général de la population par l'ONIP et le recensement scientifique par l'INS, on en est à 600 millions de dollars pour les trois.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Droit
et citoyenneté.
Quid de l'enrôlement des électeurs et de la cartographie électorale avec le professeur Jacques Joly, ancien vice-président de la CENI.
Des préalables. Ces préalables, c'est il faut qu'il y ait l'électeur. C'est lui qui a le droit de suffrage. Mais cet électeur, il faut les connaître. Il faut donc maîtriser le corps électoral. La maîtrise du corps électoral est un impératif parce que ça impacte sur la qualité et la crédibilité de l'opération électorale, partant la légitimité des institutions. Donc il faut connaître qui va voter ou qui vont voter. L'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale. Parmi les attributions de la CENI, il y a l'organisation et la gestion des opérations préélectorales, électorales et référendaires, notamment l'identification, l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales. Donc, c'est une compétence qui lui revient. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'un jour nous avons vu un organisme venir au Sénat, venir nous dire qu'il voulait organiser les recensements, nous avons dit oui, mais ne liez pas les recensements à l'identification des électeurs parce que ce n'est pas votre compétence. Donc c'est tout simplement ça. Donc, parce que parmi les 900 recommandations issues des observations électorales de ces trois cycles, la moitié de ces recommandations sont liées ou sont des recommandations liées à la maîtrise et à la fiabilisation de la liste électorale et à la stabilisation, n'est-ce pas, de la cartographie. C'est quoi les recensements? Je crois que le professeur Ndomba vous l'a dit. C'est le dénombrement de la population. C'est une opération qui consiste à recueillir, à grouper, à publier les données démographiques, économiques, sociales, se rapportant à un moment donné d'une unité politique ou d'une entité administrative. À côté de ces problèmes de recensement, il y a l'identification qui est, on vous l'a dit aussi, à trier la population d'une nation, essentiellement le comptage de nationaux. Et enfin, l'enrôlement qui est une opération strictement électorale et l'inscription des nationaux au rôle électoral de la population. Donc il s'agit de détermination des personnes en âge de voter. Et c'est donc toute la charge qui revient à la CENI d'identifier. Et ça ne suffisait pas de faire l'identification des électeurs. La CENI, parce que l'administration du territoire ne lui donnait pas des données fiables de communes, de villes, de territoires, eh bien la CENI a dû elle-même faire la cartographie pour, n'est-ce pas, déterminer les sites de vote, le bureau de vote. Et ces deux opérations lourdes posent des problèmes parce que ça manque un soubassement qu'est l'état civil.
Identification et gouvernance politique en RDC. Après Jacques Joly, place maintenant au président sortant de la CENI, Corneille Nangaa. Est-il possible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel?
La date de 15 mai 2023 pour clôturer les activités préélectorales, c'est-à-dire pour que la CENI soit en mesure d'avoir le fichier électoral. Mais ça, c'était une date qui était indicative et qui était fonction du début de ces opérations au mois d'août dernier. Comprenez donc, on n'a pas encore commencé. Et on a déjà commencé à glaner sur les délais. Et j'ai dit ça au gouvernement, que dans les jours à venir, la pression va commencer. Et cette pression est politique. Quand la pression politique va s'en mêler, plus personne ne pourra écouter des langages, des recensements. Il est donc indispensable qu'on commence. Avec la volonté politique, on peut encore tenir 2023. Et malheureusement, le Congo n'a pas le choix. Il est vraiment indispensable qu'on commence les préparatifs. Donc, les éléments constituent du chemin critique qui devait nous amener au processus électoral. Ceci étant, la question des préparatifs techniques est en cours. La CENI, aujourd'hui, nous travaillons, parce que je suis toujours payé de toute façon. Parce que je suis payé, je continue à travailler. Ce que nous faisons, les préparatifs techniques sont en cours, de sorte que lorsque l'autre équipe viendra, c'est parmi les outils qu'on lui donnera comme élément de remise et reprise. Un exemple, je parle sous le contrôle de mon grand frère Njoli ici présent. En 2011, ils sont arrivés à la CENI en début de l'année 2011. Mais ils ont organisé l'élection à la fin de l'année. Tout simplement parce que l'équipe qui les avait précédés avait déjà commencé à préparer techniquement. Et l'équipe avait même déjà commencé l'enrôlement des électeurs, si bien que c'est eux qui sont venus compléter. Donc il n'y a pas de polémique là-dessus et il n'y a pas de débat autour de ça. C'est juste question que les gens s'y mettent. Nous aurons les élections en 2023. Nous devons savoir que la République démocratique du Congo est une jeune démocratie. Et je voudrais vous dire ici, nous ne sommes pas les derniers. Lorsqu'on regarde dans la région, par exemple.
Pour clôturer ce débat républicain, nous recevons enfin le professeur Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté de droit de l'UNIKIN.
L'université a essentiellement trois missions, la mission d'enseignement, la mission de la recherche et le service à rendre à la communauté. Dans des pays suffisamment organisés, lorsqu'il y a un débat national sur une question donnée, l'université doit se prononcer. Et c'est donc interpellé par la question de du recensement et des débats qui se passent dans notre pays autour de la gouvernance, que la faculté de droit de l'Université de Kinshasa a rencontré cette préoccupation du service à rendre à la communauté d'organiser ce débat en exprimant une combinaison d'expériences entre les théoriciens, les professeurs d'université et les praticiens. Donc, le but de cette journée, c'est le service à rendre à la communauté.
Tout tourne autour de l'enjeu électoral. Est-il possible d'aller aux élections? Les intervenants disent que c'est possible. Ce n'est pas lié à un problème technique ni financier, c'est question de volonté politique. Êtes-vous satisfait du débat?
Les débats ont été enrichissants et moi, comme doyen de faculté, j'en sors satisfait. Je crois que la recommandation phare qui a été donnée, qui émerge ou émerge à partir de toutes ces interventions, c'est qu'il faut absolument que le recensement de la population se fasse dans notre pays pour que l'on connaisse qui est congolais, qui ne l'est pas, et qu'il faut que ce recensement ne soit pas simplement lié aux élections, mais c'est une donnée d'existence d'une société.
Identification et gouvernance politique en RDC. Droit et citoyenneté vous a parlé d'une thématique d'actualité dans un débat républicain avec des scientifiques et techniciens de ces notions. Ce magazine est terminé. Merci de l'avoir suivi et de rester toujours branché sous la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.